Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Tatopec démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une envoyade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive en première place avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Prisguida. C'est les champions de l'Afrique.
C'était mieux avant.
1972, les Jeux de Munich, Broye du Noir.
Ce 9 septembre 1972, dans les rues de Munich, les regards sont tristes, les sourires absents. À la veille de la clôture des 20e Jeux Olympiques d'été, spectateurs et athlètes encore en lice n'ont qu'une hâte, en finir avec ces Jeux du malheur. Quatre jours plus tôt, le 5 septembre, en plein cœur de la nuit, un commando palestinien nommé Septembre Noir a semé la désolation, prenant en otage dans le village olympique une partie de la délégation israélienne et assassinant deux de ses membres.
Oui, voici le tout premier reportage que nous venons de recevoir de Munich. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, et en blessaient grièvement un autre.
6 heures, la police a bouclé le village et le suspense commence. Les Palestiniens font connaître leurs revendications. Un avion doit être mis à leur disposition à l'aéroport de Munich, faute de quoi ils exécuteraient les otages, un par un, toutes les 2 heures.
Une prise d'otage qui s'achèvera dans le sang et les larmes. Une vingtaine d'heures plus tard, lorsque les autorités allemandes décident de lancer l'assaut sur le commando et ses otages, le bilan est effroyable. Ils viennent d'annoncer que sur les 11 otages, 2 avaient été tués dans leur chambre. Les 9 autres à l'aéroport ce soir, ils sont tous morts. La planète est sous le choc et les Jeux en deuil. Une cérémonie funèbre rassemblant 80 000 personnes est organisée durant laquelle Avery Brundage, le président américain du CIO, décide que les Jeux de Munich vont se poursuivre. Les Jeux doivent continuer et nous devons poursuivre nos efforts pour qu'ils restent propres, purs et honnêtes. Parmi les athlètes encore présents, il y a les basketteurs américains, dont certains ont vécu la prise d'otage au plus près. C'est le cas du pivot de Team USA, Tommy Burleson. Un soldat allemand s'est approché de moi et m'a dit de me tenir près du mur. Les Palestiniens se préparaient à faire sortir les otages israéliens. Alors que les Israéliens se déplaçaient derrière moi, je pouvais entendre des gémissements et des bruits de pas. L'Allemand a porté l'arme de mon dos à l'arrière de ma tête et l'y a maintenue. À ce moment-là, je suis presque sûr d'avoir fermé les yeux et d'avoir fait une prière pour moi-même. J'aurais vraiment dû prier pour eux. Malgré le traumatisme et l'exfiltration du héros américain des Jeux, le nageur Marcus Spitz, d'origine juive, les basketteurs US décident, eux, de rester sur place afin de disputer la fin du tournoi. Au soir de la reprise, le 7 septembre, ils affrontent en demi-finale l'Italie, qu'ils balaient 68 à 38. Une promenade de santé pour cette équipe qui n'a encore jamais perdu un match au cours des 7 précédents Jeux Olympiques, dont elle est, on le pense alors, victorieuse à perpétuité. En finale, un vieux rival l'attend, l'Union soviétique, toujours placée, jamais gagnante, et ce malgré 4 finales disputées contre les Ricains. En ce début des années 70, un affrontement États-Unis-URSS n'est jamais un match anodin. En état de guerre larvée depuis plus de 20 ans, les deux superpuissances livrent aussi leur duel idéologique sur les terrains de sport. Fort de leur succès à répétition, les Américains abordent le tournoi en totale confiance avec une équipe de gamins. À l'époque, les pros de la NBA n'ont pas encore droit de cité aux Jeux Olympiques, réservés aux joueurs universitaires. Le journaliste américain David Sweet, auteur du livre « 3 secondes à Munich », évoque les forces en présence pour cette finale. La plupart des joueurs américains étaient des collégiens et l'équipe avait été constituée à la hâte. On se demandait s'ils seraient capables de battre les Soviétiques qui, eux, avaient une vraie équipe pro qui jouait tout le temps ensemble. À l'entame du tournoi olympique, les basketteurs soviétiques, qui n'ont d'amateurs que le nom, ont déjà disputé près de 400 matchs ensemble, alors que les rookies américains ne comptent qu'une douzaine de rencontres en commun. Des Américains qui, avant même le début du tournoi, ont enregistré des forfaits de taille, dont celui de Bill Walton, futur MVP de la NBA, qui a fixé des conditions inacceptables à sa présence, dont celle d'arriver à Munich sans effectuer la moindre préparation avec le groupe. Et l'inexpérience des Américains va se vérifier lors de la finale. Il est 23h45 ce 9 septembre lorsque le coup d'envoi du match est donné. Drôle d'horaire, me direz-vous. Et oui, déjà à l'époque, le diffuseur américain fixe ses conditions au CIO. ABC et ses téléspectateurs vont vite déchanter, car sur le parquet de Munich, les collégiens US prennent l'eau. Incapables de prendre le jeu à leur compte, ils subissent le tempo des soviétiques. Dans le camp américain, l'ailier Mike Benson enrage. Nous étions désavantagés parce que nous ne pouvions pas contrôler le rythme et nous ne pouvions pas sortir et courir. Nous étions obligés de jouer à leur manière. Et l'écart grandit. De 5 points à la mi-temps, il passe à 10 points d'avance en faveur des Soviétiques à 10 minutes de la fin du match. Alors, perdu pour perdu, les Américains finissent par se réveiller et retrouvent, à l'image de Bentham, toute leur qualité de basketteur. On a commencé à jouer beaucoup plus vite, à les mettre sous pression, on sautait, on s'accrochait. Vous voyez dans le regard des joueurs adverses quand ils ne savent plus comment faire et on a vu qu'ils n'avaient plus de solution. Team USA se rapproche à vitesse grand V, mais le chrono, lui, file. Plus qu'un point d'avance pour les Russes, mais seulement 10 secondes à jouer. C'est là que se joue le premier acte de ce final à suspense raconté par David Sweet. Ils ont été menés toute la partie. Pourtant, à 10 secondes de la fin, il n'y avait qu'un point d'écart. Les Soviétiques avaient la balle, ils n'avaient pas besoin de tirer. Pourtant, l'un d'entre eux décide de faire une passe qui est aussitôt interceptée par Doug Collins qui traverse le terrain, arme son tir avant d'être balayé par un Russe. Collins, groggy, s'écroule. Va-t-il pouvoir se relever et inscrire les deux lancers francs que lui offre l'arbitre et qui donnerait la victoire aux Américains? À moitié dans le coltard, il entend ses deux coachs évoquer son cas. Les entraîneurs sont venus voir comment j'allais. Ils parlaient entre eux. On devrait peut-être faire entrer quelqu'un pour les lancers francs, tu trouves pas? Et mon coach de répondre de sa voix grave, si Doug peut marcher, il peut shooter. Et pendant que Collins reprend ses esprits côté soviétique, on est catastrophé à l'image de Sergei Belov, furax à l'égard de son homonyme, Sacha Belov, auteur de la passe désastreuse. C'était la catastrophe, comme si une bombe nucléaire venait d'exploser. J'ai détesté Alexei à cet instant-là, j'étais même prêt à le tuer. Il avait ruiné la victoire de ses propres mains, tous ses entraînements, tous ses rêves, cette victoire que nous touchions des doigts, tout à coup, tout s'écroulait. Mais avant que tout ne s'écroule pour les Russes, il faut d'abord que Collins entre ses deux paniers. La pression est maximale sur les épaules du jeune Américain. Cet endroit devient complètement dingue. Collins vient l'égaliser. Et le voilà qui inscrit un nouveau panier, peut-être celui de la victoire. Il reste 2 secondes à jouer. Pour la première fois de la partie, voilà les Américains devant. Et à moins d'un miracle, ils sont champions olympiques. Ça ne fait presque plus aucun doute. Les Soviétiques réengagent. Et aussitôt le buzzer retentit, les Américains se croient champions. Mais non, c'est l'arbitre qui a stoppé le jeu. Après que les coachs russes soient entrés sur le terrain, en assurant qu'ils avaient demandé un temps mort entre les lancers de Collins que personne n'a entendu. Manque d'attention ou défaillance, il n'empêche, la table de marque accorde un dernier sursis aux Soviétiques à qui il ne reste plus officiellement qu'une seconde pour marquer.
Remise en jeu soviétique, la sirène retentit, les Américains sont champions olympiques sur le score de 50 à 49.
Mais quel finish incroyable, c'est complètement dingue. Les Américains remportent leur 8e médaille d'or consécutive, cet endroit est devenu complètement fou.
Mais regardez au milieu, l'arbitre et un des officiels veulent faire évacuer le terrain.
Encore 3 secondes.
Décision confirmée par le speaker qui annonce qu'il reste 3 secondes à jouer.
Cette décision, c'est William Jones, le président de la Fédération internationale, qui l'impose à la table de marque, ordonnant de remettre 3 secondes au tableau d'affichage pour revenir à la configuration d'avant les lancers francs. Les Américains sont furax, ne comprennent pas l'intervention de Jones, ils menacent de ne pas reprendre le jeu. Finalement, au bout de longues minutes de palabres, un calme relatif finit par revenir. Les Russes ont une extra ball qu'ils ne vont pas gâcher.
Longue balle en avant pour Belov, qui réussit le panier. C'est incroyable, ce sont maintenant les Soviétiques qui sont champions olympiques.
Sans trop y croire, les officiels américains déposent immédiatement une réclamation qui sera rejetée quelques heures plus tard pour le plus grand courroux de Bob Ryan, journaliste au Boston Globe, présent cette nuit-là à Munich. Le match a été volé aux Américains. L'impudeur de tout cela est risible, naturellement, parce qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, tellement évidente et pathétique. C'est une parodie, une plaisanterie, une farce inimaginable. Et le lendemain, sur le podium, cette image incroyable, l'immense place réservée aux vice-champions olympiques est vide et les 12 médailles d'argent restent dans leur écrin. Les Américains ont quitté Munich, promettant ad vitam aeternam de ne jamais accepter cette médaille pour Kenny Davis, le meneur US, c'était l'or et rien d'autre.
Nous ne voulons pas de la médaille d'argent. Nous allons dire au monde que nous n'en voulons pas. Nous avons gagné la partie et si nous n'obtenons pas l'or, alors nous ne voulons rien d'autre. Davis fera même inscrire dans son testament l'interdiction aux membres de sa famille d'hériter de sa médaille. Une position qui irritera autant qu'elle amusera les soviétiques, à l'image de l'ancienne basketteuse Nina Eremina qui ce soir-là commentait le match pour la télé soviétique. Je dois admettre que je n'ai pas aimé la façon dont les Américains se sont comportés. Cela a entaché mon attitude à leur égard. Si vous êtes un véritable athlète et un homme, vous devez être assez fort pour perdre. Ils étaient bien trop présomptueux, trop occupés à se regarder le nombril. Le respect du rival, il est où là ? Des Russes qui rentreront au pays auréolé de la gloire des héros soviétiques. Leur histoire fera même l'objet d'un film, bien des années plus tard, qui deviendra le plus rentable de l'histoire du cinéma russe. Quant aux médailles d'argent, 52 ans plus tard, elles restent toujours rangées au fond des placards du CIO à Lausanne. Des médailles dont les Américains ne veulent toujours pas, même si pour Tim McMillan, pivot de l'équipe US ce soir-là, elles devraient faire l'objet de plus d'attention. Ces médailles devraient être exposées quelque part. On pourrait alors parler de l'histoire de ce match et de la façon dont la politique et le sport sont liés. C'est un moment d'histoire et pas seulement un match de basket. C'était une époque où des pays étaient en guerre, froide certes, mais guerre quand même. Et cela s'est répercuté sur les terrains sportifs. Ça fait partie de l'histoire de ce jeu. McMillan, qui après avoir quitté les parquets, deviendra membre de la Chambre des représentants des États-Unis et quitte son siège, fera tout son possible pour qu'à l'avenir, la sélection olympique américaine soit composée de joueurs pros. Un projet qui aboutira en 1992 à la création de la première Dream Team et de ses stars, et Jordan, Bird et autres Magic Johnson. Avec une telle équipe, les Russes auraient eu besoin de bien plus de 3 secondes pour espérer faire tomber les rois du basket. Les États-Unis, qui à ce jour ont remporté la bagatelle de 16 médailles d'or lors de 20 tournois olympiques disputés, oui, mais ces 3 secondes leur laisseront à jamais un goût d'inachevé, la désagréable sensation de s'être fait spolier, voire enfler.
Encore un très beau moment offert par Christophe Cessieux. Nous raconter cette histoire, ça vous a fait réagir hein, dans le studio, parce qu'on connaissait cette histoire, mais pas aussi
là,
bien qu'elle a été.
C'est du vol absolu. C'est le plus grand vol de l'histoire du sport.
Non, faut le re-regarder. C'est incroyable. En plus, maintenant que tu as raconté l'histoire, re-regarder les images, je trouve ça hyper intéressant. Et Doug Collins, qui était l'entraîneur de Michael Jordan.
Exactement.
Et juste pour te dire, ils n'ont pas attendu 92. Michael Jordan l'a gagné en 84. Les Jeux Olympiques avec les États-Unis alors qu'ils sont...
Oui, mais la grande... Alors, c'est vrai que les pros sont entrés petit à petit, mais après, ils ont voulu vraiment assurer le coup en 82.
Ils pensaient qu'il y a écrasé tout le monde.
Et on a beaucoup de chance en parlant de ça. Vite fait, c'est que peut-être la deuxième vraie Dream Team, elle sera à Paris cette année.
Oui. Et voilà, c'était mieux avant.